Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Goods et de Luxe. Vous le savez désormais, Goods Luxe est tous les jours de la semaine. Et avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, eh bien, nous travaillons même le dimanche. Et ce week-end, nous vous offrons un petit verre de vin parisien à consommer avec modération. Bien sûr, après les cavistes nouvelle génération, les nouveaux guides, les caves à manger ou encore les box à vin, la capitale ne cesse de bousculer le petit monde de la dégustation. Démonstration dans un instant avec les vignerons parisiens, la wine ou encore vernis caviste en chambre, mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et les nouveautés de la semaine, comme à notre habitude, on commence, Emmanuel, par les tables de la semaine. Vous nous emmenez un petit peu, j'allais dire, en province. C'est presque la province, finalement.
Je crois que si on devait jumeler Goudelux avec une certaine ville, ce serait Chantilly.
C'est vrai.
On en parle régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être une des villes des environs de Paris qui ajoute à son charme naturel une vraie dynamique. On en a souvent parlé, on va en reparler. D'ailleurs, cette semaine, à l'occasion des deux couverts, j'ai déjà parlé de cette table. J'en reparle parce que vraiment, c'est l'une des plus délicieuses de cette rentrée. On est du côté de l'auberge du Jeu de Paume, la table du Connétable. C'est une adresse qui s'est montée il y a à peu près 5 ans. Elle avait écopé de 2 étoiles Michelin, c'est-à-dire très rapidement, avec un chef brillant qui s'appelle Arnaud Faye. Son seul défaut, c'est d'être parti. Il a été repris, remplacé aussi sec par Clément Leroy. Clément Leroy, pour la petite histoire, il est tout jeune et ça a longtemps été, malgré sa jeunesse, le second de Guy Savoy. Il vient de récupérer les cuisines de l'adresse et c'est très réussi. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à mettre sa cuisine au diapason de cette adresse qui réinvente ce qui était un petit peu le relais. Vous savez, le relais de campagne, le relais de province, c'est une idée qu'on croyait un peu désuète. Et ici, à l'auberge du Jeu de Paume, c'est très intelligent. Non seulement le velours, il est feutré, mais contemporain. Ils osent les couverts en vermeil. Simplement, à chaque fois qu'on soulève les couverts en vermeil, on n'a pas le sentiment de soulever un héritage. Donc c'est très réussi. Et puis ça cuisine au diapason. Carte courte, très inspirée, avec des... c'est-à-dire des entrées qui sont plutôt dans l'impressionnisme. On a l'impression de petites aquarelles, ça commence tout doucement, et puis ils réussissent, que peu de chefs réussissent aujourd'hui, finalement, sont des vrais plats de résistance. Ça a commencé par un plat qui résume toute l'adresse. C'est une volaille d'armoise, travaillée, ourlée, j'allais dire, aux escargots, avec une sauce à l'isope, rien que ce plat-là, avec la cuisson qui réinvente le moelleux, avec l'esthétique, mais qui n'en fait pas trop. On est dans la gourmandise, dans l'appétit, on est parfaitement en phase, avec, j'allais dire, une table qui est parfaite pour les week-ends.
Et l'addition ?
Eh bien, la même adresse à Paris, ce serait le double. C'est comme
D'accord.
ça qu'il faut le dire. Alors, faut quand même imaginer qu'on est dans un restaurant qui va certainement hériter de beaucoup d'étoiles au mois de mars prochain, certainement 2. On est aux alentours de 100, 120, 150 euros, selon qu'on prenne les menus et la carte, 20 compris. Une carte des vins très intelligente. À Paris, pour le même plat, c'est 300 euros. C'est
Parfait.
Une manière un petit peu intelligente
voilà,
de l'aborder.
De l'annoncer. La
c'est
table
trop
du
beau, hein, Chantilly.
Ah bah Chantilly, c'est toute une aventure en soi donc à découvrir avec son nouveau chef. Autre nouveauté, je vous avais parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, Emmanuel, d'un lieu assez incroyable que moi j'adore, qui s'appelle Empreinte, un tout nouveau
oui.
lieu, rue de Picardie, dans le 3e arrondissement, qui met à l'honneur les artisans d'art. Eh bien, ils ne sont pas les seuls, parce que ces artisans, ces créateurs artisans et leur modernité sont à nouveau à l'honneur dans un autre lieu qui s'appelle Mayaro. Et c'est pour vous les hommes, Emmanuel, à la fois concept store et galerie d'art, dédié aux objets d'artisans et designers. C'est 20 rue Amélis, c'est dans les beaux quartiers, dans le 7e arrondissement. C'est une réalisation de Nicolas Floquet, collectionneur multi-entrepreneur, et puis de deux filles dont on a déjà parlé il y a quelques années, mais dont on parle souvent ici dans Goods Luxe, Raphaël de Panafieux et Héloïse Gilles, qui ont créé la marque d'éventail Duvelroy. Et donc ils ont réuni tous ensemble, ils ne sont pas
oui,
que tous les
bien.
Trois, ils ont réuni des artisans, des designers et ils ne proposent que des éditions limitées, des petites collections avec par exemple le chef Sven Chartier, les designers Godefroy de Virieux et Stefania Di Petrio, les bottiers de Tranchet Vif dont un certain Christophe Cortet, les ébénistes de l'atelier Iota, j'en passe et des meilleurs.
Vous les avez tous reçus,
et en
quasi.
Plus, dans un lieu absolument magnifique, qui évoque le voyage avec une nacelle de montgolfière gainée de cuir en guise de comptoir, avec la toile de parachute qui surplombe la vitrine. un univers à soi, un nouveau concept, c'est même pas un concepteur, c'est un nouveau concept à aller découvrir d'urgence. Ça s'appelle Mayaro, cet incubateur d'artisans où on retrouve aussi les vélos de Tamboite par exemple, ou les couteaux en marbre et map lune. Des map lune, vous savez ce que c'est? Il y a des map monde, et ben là ils font des map lune.
C'est la même chose, mais avec la lune.
Voilà, c'est très poétique.
C'est cratère.
Mayaro, c'est 20 rue Amélie dans le 7e arrondissement de Paris. Allez, c'est Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Et nous accueillons Sandy Pronoy. Bonjour Sandy, comment ça va?
Très bien.
Bon, toute de bleu
vêtue. Toute de bleu, et pourtant je ne vais pas parler de bleu.
Non.
Vous verrez, je vais parler de l'eau boutin. J'en dis trop.
Lui, c'est
plutôt
d'abord, rouge. Mais...
D'abord.
Vous connaissez le bleu lorrain, vous parlez du rouge loup-boutin,
bah ouais,
n'importe quoi.
Ouais, oui, voilà.
Alors d'abord, gourmande épicurienne.
Gourmande épicurienne, marque française. Dès le 3 novembre prochain, en fait, Vente Privée va soutenir la jeune création en mettant à disposition son réseau. Vous savez que c'est 3,5 millions de visiteurs uniques par jour. C'est une collaboration avec le concours Baby Brand qui célèbre un petit peu les marques d'entrepreneurs français. Cette année, il y a quatre entreprises qui sont à l'honneur. La première, c'est le chocolat des Français, Sassy Cidre, le cidre made in Normandie, et puis deux marques de vêtements femmes, Iris Cantabris et Rare. Closing. Alors en fait, il y a
des partenariats, des marques gastronomiques, et qu'est-ce qu'elles font ensemble?
Et ben justement, ça va faire de la gastronomie fashion. Okay. J'explique. Un partenariat d'abord entre deux personnages de ce que je viens de citer, Sassy Cidre et Iris Cantabri, qui vont nous proposer un jus de pomme bio et sa pochette imprimée. Et puis les deux autres, le chocolat des Français et Rare Closing, qui nous offriront une tablette de chocolat et sa pochette en jean. Ces quatre marques, elles ont été sélectionnées par les internautes via un sondage sur Vente Privée. Voilà.
Et ce sera donc à découvrir dès le 3 novembre prochain sur venteprivée.com. Alors, le boutin, c'est quoi l'histoire avec le boutin?
Le boutin, c'est l'histoire que, vous savez, il y a un nouveau site qui est sorti en avril dernier pour les hommes, messieurs, qui s'appelle sportyhenry.com. C'est pour les sportifs qui aiment le sport, qui aiment être chic
élégant
quand ils courent ou quand ils vont à la salle.
Ils font pas de sport.
C'est pas du tout chic d'aller à la salle, je m'en rends compte. Christian Le Boutin qui vient de signer 4 modèles de basket pour ces messieurs-là, donc avec la semelle rouge en caoutchouc. Les baskets sont aux couleurs du site sportyhenry, donc elles sont bleu, blanc et noir. Et puis bah, on peut évidemment les choper sur ce site. Ça vous tente?
Il n'y a pas de talons aiguilles, je vois.
Déjà, pas d'escarpins. Rouges,
bon, en tout cas, si ça ne vous tente pas, il n'y a pas que du shopping sur ce site. Il y a aussi toute une partie éditoriale avec des conseils de pros, comment bien manger, bien vivre, comment être heureux quand on est un homme et en pleine santé.
Comment être beau comme Tony Parker, par exemple.
Oui, il y a Tony Parker qui intervient beaucoup.
Et allez, on arrive sur la Fashion Week parisienne. Là, ça y est, New York, Londres, Milan, Paris.
Paris, donc le 27 septembre. Et au moment du lancement de la Fashion Week parisienne, il va y avoir le lancement aussi d'un site qui s'appelle panoplicity.com. Ce site, ça va être la possibilité pour nous, les femmes, de louer des vêtements de créateurs. Donc, il y a vraiment des vêtements et des accessoires. Riquiel, Courrèges, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de marques qui sont référencées. J'ai plus le nombre en tête. Pour le moment, on s'inscrit sur le site pour recevoir une invitation, pour être la première à faire partie de cette aventure. Et voilà, pas mal de photos, pas mal de petits teasers côté Facebook, Insta.
Donc, ce ne sont pas encore les vêtements et accessoires qui seront directement sur les podiums, mais en tout cas, c'est une belle collection.
Non, ouais, voilà, ce sera vraiment des
dressing.
Exactement.
Et qu'ils ont concocté
pour
nous.
Ça évitera de bourrer le nôtre encore plus.
Voilà, et pour être la plus belle pour aller voir les défilés.
Voilà.
Merci infiniment, Sandy Pronoy.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, une boutique gourmande.
La première de la saison, plutôt réussie. Aux commandes, deux anciennes de SCP qui sont passées par les grands groupes parisiens, notamment LVMH. Et ces deux-là ont le mérite d'être savoyards. Ils se sont souvenus, donc ils endossent la peau du réenchantement, ou plutôt le tablier, puisqu'ils ouvrent rue d'Argou, c'est du côté du quartier Montorgueil, au 69 exactement, la maison de la Savoie. C'est une épicerie fine, et un peu plus qu'une épicerie fine d'ailleurs, parce qu'il y a une cave à fromage, parce qu'on s'aperçoit que la Savoie, c'est un terroir bien évidemment éminemment hivernal, on en rentre dans la belle saison, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors bien sûr, les fromages, ils ont une cave d'affinage avec les tomes de Savoie, les reblochons, et puis surtout, le bleu de Termini. Le bleu de Termignon, c'est un fromage très fragile, très rare. On arrive à en trouver du côté de la maison de la Savoie. C'est également, bien évidemment, des charcuteries. C'est aussi toutes les herbes, toutes les aromatiques. C'est une C'est un terroir, la Savoie, qui aime beaucoup les infusions. C'est bien sûr les génépis, les alcools un petit peu relevés, les alcools d'homme, quoi, les alcools de montagnard. Et puis aussi, évidemment, ce sont ce qu'on oublie un petit peu, le lac, les poissons de lac. Et les poissons de lac, notamment l'omble chevalier ou le ferrat, travaillés en fumée. Bref, il y a une sélection sincèrement virtuose, très réussi. En plus, ils sont sympathiques comme tout.
Et ça puis, s'appelle la maison de Savoie.
Ouais, et puis, ils ont réinventé, vous savez, on est du côté du Mont-Orgueil avec les petits pavés de Mont-Orgueil. Ils rappellent que bien avant le burger ou la pizza, il y a une vraie street food. Si ce n'est parisienne, du moins du terroir, ils font tous les jours, à l'heure du déjeuner, des batteries de sandwich avec une bonne mie et un bon pain, justement, fourré de fromage ou de charcuterie savoyard. C'est très réussi. L'un s'appelle, je me trompe pas, je crois que c'est François.
En tout cas, on ira
et l'autre,
voir.
C'est Philibert. Philibert de Savoie, forcément.
Donc c'est rue Mont-Orgueil, hein, c'est ça la maison de la Savoie à découvrir. Des nouvelles de chez Berluti. Berluti qui change de directeur artistique. Vous savez, Alessandro Sartori était parti. Et donc c'est Haider Ackermann qui arrive et qui succède à Alessandro Sartori pour cette marque de LVMH, grand bottier des nés en 1895. Et surtout, collection capsule femme, là, qui est présentée. 5 modèles de chaussures, plus le sac un jour, miniaturisé. Et donc, vous avez l'escarpin à lacets Alessandro, le mocassin D, le classique Chelsea boot, etc. Le tout revu, version un petit peu féminine. Ils ont fait déjà une incursion dans le prêt-à-porter. Vous savez, depuis quelques années, depuis 2011, 2005, ils avaient lancé la maroquinerie. Et voilà, et Berluti, dirigé par Antoine Arnaud, étant le champ des possibles, cette belle maison de bottier. Je vais terminer par l'objet de la semaine. Alors, ça va peut-être plus s'adresser aux femmes, mais c'est la rencontre de deux savoir-faire limousin. Une crème anti-âge, vous ne connaissez peut-être pas, Emmanuel, ça s'appelle
Limousin.
Sosis. Et la crème, c'est la crème 128 secrets de Sosis. C'est hyper technique, hyper technologique, mais à base de plantes et notamment de roses. Et donc, pour fêter leurs 70 ans, ils se sont réunis avec les équipes de chez Bernardo, donc lui aussi qui est dans le coin, qui fait de la porcelaine de Limoges. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que leur petite crème super performante qui vous enlève toutes les rides, on n'a jamais vu ça. Ils l'ont mis dans un petit pot en porcelaine absolument magnifique, fait à la main. Et tout ça, ça a l'air simple, ils n'ont pas mis juste la crème dans le pot, c'est que c'est un petit peu poreux, la céramique, etc. Pour ne pas qu'il y ait de soucis, c'est 9 mois de recherche et développement pour réussir à créer ce pot. Du coup, c'est en édition limitée. Du coup, c'est un magnifique produit. Du coup, c'est un petit peu cher, c'est 500 euros.
Ah oui,
mais il
n'y
a que 5000 à 8000 exemplaires de ce pot qui seront commercialisés à partir de la mi-octobre en France. L'idée, c'est l'exportation et une visibilité pour le savoir-faire limousin à l'international.
Alors, le contenu sur l'anti-âge, le hygiene, on n'est pas sûr, mais au moins le contenant.
Eh ben
ça,
voilà.
C'est du Bernardo, c'est du tangible, ça résiste
tout,
au temps, c'est
vous
Limousin.
Vous conservez le petit pot et voilà. Vous l'utilisez à autre chose, c'est un véritable investissement.
Pour en faire un entrier.
Ah, ça va, tout de suite, vous
j'aime beaucoup.
À ça, on va parler vin, alors ça vous parle, hein, à ça, voilà, un petit verre avec modération.
Écoutez, c'est la saison, ouais.
C'est
on peut
le
pas
vin
dire
parisien.
Qu'on en parle régulièrement.
C'est tout de suite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Good Luxe met Paris en bouteille cette semaine. Vous allez voir un petit peu quelles sont les nouvelles propositions du vin dans la capitale avec nos invités. Nous sommes en compagnie d'Adrien Pellissier. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de la Winery parisienne. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Bossert. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur des Vignerons parisiens et d'Olivier Madinier. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Vernis Paris, caviste en chambre. Tout un programme. Alors figurez-vous, messieurs, dames, qu'avant il y avait les vendanges à Montmartre, c'est vrai, il y a quelques années.
Et que maintenant,
il y a toujours, même. Enfin bon, c'est quand même plutôt pour le,
oui,
pour le touriste, hein, on est bien d'accord.
C'est de la piquette.
Sauf que maintenant,
il y a une femme sur elle aussi.
Il n'y a pas encore les vendanges à Paris. Il y aura peut-être bientôt les vendanges en Ile-de-France, les vendanges franciliennes, vous le verrez, on va en parler dans un instant. Mais en revanche, il va se faire, il est en train de se faire du vin à Paris, c'est ce que l'on va raconter aujourd'hui. Adrien Pellissier, la winery parisienne, l'idée de départ, c'est bien ça, c'est de mettre un chai à Paris.
Absolument, à la winery parisienne, on souhaite valoriser le vin de France et redonner à Paris une place centrale dans le monde viticole d'aujourd'hui. La première des choses, c'est que nous...
C'est-à-dire que c'est
compliqué quand même, parce qu'on disait les vignes, elles ne sont pas forcément à Paris. Donc, je veux bien que vous mettiez Paris au cœur de l'expression viticole. Mais c'est un grand Paris sans S.
Oui, absolument. En fait, on a trois métiers. On va vous expliquer ça immédiatement. Le premier métier, c'est un métier qui consiste à faire des master blending, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans les...
Des master blending,
ouais,
c'est-à-dire
dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des parcelles, et donc du raisin, puisque c'est la composante la plus importante pour faire du vin, en région. Suite à ces sélections de parcelles, en fait, on passe des partenariats avec des viticulteurs pour suivre les parcelles tout au long de l'année. Une fois qu'on a suivi ces parcelles tout au long de l'année, on va récolter en région et ensuite on va vinifier nous-mêmes dans notre chai l'intégralité de ces raisins. L'avantage et la valeur ajoutée pour nous de le faire à Paris, c'est que comme on n'a pas de terre, l'idée en fait c'est d'aller chercher nos cépages préférés dans différentes régions.
Aujourd'hui, de France.
De France, absolument.
De la France.
Ouais. Ça c'est vraiment le style caractéristique qu'on est en train de développer avec la winery parisienne, c'est qu'on intervient sur 8 régions différentes et on va sélectionner 8 cépages différents. Et ces cépages, on les amène à Paris, on les vinifie séparément avec un matériel dédié, ça peut être de la cuve inox ou des barriques de vinification intégrale, et ensuite on va créer un assemblage innovant, un assemblage parisien et un assemblage qui fait la griffe de la winery et qu'on ne retrouve pas, a priori, autre part qu'à la winery parisienne.
Ça, c'est drôlement osé et c'est un vrai mélange. J'aimerais juste, avant qu'on continue avec vous, passer au vigneron parisien. Parce qu'on est un petit peu...
Ah bah, il va venir, parce que ça pose mal pour
mais justement, mais vous allez voir pourquoi. Parce que les vignerons parisiens, au départ, il y a un petit peu la même idée. Sauf que vous faites les choses différemment. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est mieux. Bien au contraire, c'est intéressant. C'est parce que, justement, les choses bougent, que vous pouvez faire les uns et les autres, ça, aujourd'hui. 55 rue de Turbigo. Que s'y passe-t-il donc, Mathieu Bosset?
Alors au 55 rue Turbigo, donc il y a notre chai de vinification et d'élevage. Donc effectivement, on travaille donc des parcelles à l'année.
Donc vous aussi un chai.
Un chai.
En plein Paris.
Au cœur de Paris, puisqu'on est au donc métro Arts et Métiers.
On peut
pas faire plus central. Mais ça fait partie de l'idée de départ, c'est-à-dire de montrer aux gens et notamment donc aux Parisiens comment on fait du vin. Parce que Paris, c'est comme la ville où on boit le plus de vin au monde. Au monde, c'est là où on boit le plus de litres au mètre carré.
On rappelle qu'on consomme avec modération, etc.
Ah, mais là, c'est trop tard, là, c'est une statistique.
Non, mais il y a 30 millions de touristes aussi, donc ça,
voilà, ça va, ça équilibre.
Et il n'y a pas moyen de voir comment on fait du vin facilement. On doit prendre 2-3 jours, aller en région, téléphoner à des vignerons qu'on ne connaît pas forcément. Ça prend du temps, ça prend des sous, etc. Donc maintenant, vous faites 2 stations de métro, vous arrivez dans un chai et on vous montre comment on fait du vin. Donc il y a un fil rouge un peu pédagogique sur tout notre projet. Mais si on parle du vin, donc on a des parcelles en Vallée du Rhône. En bio et biodynamie, ça c'était essentiel pour nous.
Donc vous venez d'une seule région, en tout cas pour l'instant, l'histoire
pour
c'est
l'instant,
ça.
Pour l'instant, oui, Vallée du Rhône, parce que c'est là où on a notre réseau, c'est là où on a identifié les parcelles qui nous intéressent, des parcelles qui sont en altitude, où il y a toujours de la fraîcheur, etc. Et surtout bio et biodynamie. Et comme on travaille la parcelle de A à Z avec le vigneron à qui elle appartient, c'était important pour nous de nous concentrer sur une seule région pour pouvoir tout maîtriser voilà, de A à Z. Donc ça c'est la partie agricole du projet, la vendange se fait, les raisins arrivent à Paris en camion frigorifique et tout le processus de CAF se fait à 55 rue Turbigo.
On va revenir au processus de CAF, mais c'est juste voilà, pour poser un petit peu le
décor. Que ce soit
finalement
les vignerons parisiens et les winerons, on va revenir l'un et l'autre sur votre processus, mais vous êtes en train quand même de dénier ce qui est le fondamental du vin, c'est la notion de terroir.
Au contraire.
Le vin c'est un cépage, c'est une géographie, c'est une terre, c'est un climat. Et vous nous dites que vous, finalement, vous prenez 8 parcelles à travers la France, vous travaillez sur le secteur rhodanien, mais tout le terroir, il n'est pas parisien. Finalement, ça fait un vin parisien. Effectivement, ce qui est intéressant, ce qui est tout à fait louable, le côté didactique, pédagogique, et ici, effectivement, la notion d'assemblage, c'est-à-dire que le vin, ce n'est pas simplement un terroir, c'est aussi de l'humain, un savoir-faire.
Et puis du savoir-faire de vinification.
Mais il y a quand même le terroir, il ne sera jamais parisien.
Le terroir n'est pas parisien, en revanche, le savoir-faire l'est. On a ramené un savoir-faire qui n'a jamais existé à Paris. On n'a jamais pressé des raisins dans Paris intramuros.
C'est vraiment le vin nouvelle génération, c'est une nouvelle manière du vin, c'est radical.
Bah, on fait bien de la bière dans Paris.
Ah, mais moi, je ne dis pas.
Allez-y, Adrien.
J'interviens sur le mot terroir. Nous, dans le concept que j'ai déroulé devant vous il y a quelques minutes, l'idée c'était de faire des vins d'assemblage, des vins de marque qui sont issus de plusieurs régions. La deuxième partie de notre projet, c'est de travailler sur l'idée de devenir producteur récoltant en région Île-de-France.
D'accord.
Voilà. Donc là, de recréer un terroir parisien qui a existé.
Qui a existé.
Et sur lequel on a fait des vins, et y compris jusque sur l'île de la Cité. Donc l'idée, c'est de travailler sur la viticulture francilienne de demain, en créant évidemment un cadre qui est conscient de des enjeux à la fois environnementaux qui peuvent être à la fois des comment dire des choses qu'on va savoir apprivoiser, et par exemple le réchauffement climatique qui met en difficulté beaucoup de vignerons est quelque chose qu'on va pouvoir essayer de travailler, voir s'il y a des cépages qui sont capables de s'adapter au climat et à la géologie parisienne. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Et donc, on se rapprochera de plus en plus d'une intégration totale de la chaîne pour devenir des vrais vignerons franciliens et de faire de la winery parisienne la première propriété viticole de la métropole du Grand Paris.
Grosses ambitions quand même, parce que ça va prendre quelques années. Hein.
Alors, effectivement, ça prend du temps. Puisque
quand on parce que pendant ce temps, il n'y a rien, vous partez de rien quand même.
Quand on plante des vignes, on ne part pas de rien, puisqu'il y a une histoire qui est millénaire dans la production de Paris.
Mais
il y a des terroirs qui sont identifiés, il y a une méthodologie historique qu'on a mis en place. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent de recréer cette histoire et de la faire revivre. Après, il y a des études qui existent qui sont extrêmement communes sur la fraîcheur des nuits, sur les analyses de sol, et qui permettent de démontrer si on est capable de faire du vin à Paris ou pas, ou de faire du vin en Île-de-France ou pas.
Et justement, vous le dites, l'Île-de-France avait effectivement une histoire vinicole. On sait à peu près les régions, si l'Île-de-France est plutôt large, quels sont les coins qui sont les plus idoines pour essayer d'imaginer une vigne parisienne ou le retour d'une vigne francilienne. C'est la Seine-et-Marne, c'est le Val-de-Marne. On sait qu'il y avait un vin à Suresnes, une horrible piquette, mais bon, pourquoi pas.
Je vais faire un petit clin d'œil à la centaine de vignerons amateurs qui font revivre la tradition viticole parisienne et francilienne depuis des années. Notamment, on travaille avec une association dans les Yvelines. Il y a beaucoup de sols qui s'y prêtent autour de Paris. Il y a beaucoup de sols calcaires, qui sont des sols qui sont extrêmement adaptés à la viticulture. Donc, c'est des choses qui sont absolument pas farfelues. Voilà.
Ah, mais moi, je pense pas que ce soit farfelu. La modernité du vin, c'est pourquoi pas de réinventer un terroir. La question, c'était que pour l'instant, et c'est pas un reproche, il n'y a pas véritablement, dans vos deux constructions, de terroir parisien. Il y a un savoir-faire parisien, mais ce qui est aussi une manière de vin.
On va avancer là-dessus, mais je voudrais juste quand même votre avis, Olivier Madinier. Vous aviez le verger de la Madeleine, vous avez fermé, et donc, avec votre frère, notamment, vous avez créé Vernis, que vous appelez caviste en chambre. Donc, en fait, c'est un caviste qui n'a pas pignon sur rue, en quelque sorte. Et parmi vos ambitions, c'est de faire découvrir les vins qu'on ne connaît pas, être un grand découvreur de talents vinicoles. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous semble une aberration? Est-ce que ça vous semble intéressant? Ils vont pas vous sauter dessus, vous avez le droit de parler. Mais comment vous voyez cette évolution-là, aujourd'hui, de proposer de faire du vin à Paris?
Ça me semble très intéressant dans le sens où finalement toutes les découvertes sont bonnes. Aujourd'hui, il y a des vins dans toutes les régions du monde. Donc il faut s'intéresser à tout ce qui peut naître. Aujourd'hui, nous étions spécialisés sur les humidifiés et les vins rares. Nous sommes ouverts maintenant avec Vernis sur tous les vins du monde. Les découvertes parisiennes sont pour moi authentiques. On parle de terroir, c'est ce qui m'intéresse. On parle de cépage, parfois, c'est plutôt une question des vins du Nouveau Monde. Je pense qu'il y a certaines orientations qui sont bonnes dans les deux sens, mais il faut savoir dans laquelle on se place. Et du coup, en termes de terroir, est-ce que le terroir parisien est un vrai terroir? Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, il y avait des vignes dans toutes les régions, tous les départements, même si les départements n'existaient pas à l'époque, de la France, enfin en tout cas de la France qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà,
Mais il y a eu l'évolution climatique et effectivement, peut-être que du coup, ça va évoluer.
Tout à fait, mais ça, c'est une question qui est encore plus récente.
Ouais.
Il y a les cépages, il y a les terroirs et après, il y a l'évolution climatique. De quoi qu'il arrive, le climat, l'orientation des vignes, la viticulture a été toujours une prépondérance des viticulteurs. Donc,
Donc, à suivre, effectivement, c'est une chose à voir, Emmanuel.
Eh bien, on y va. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on l'a vu, on a essayé de placer le panorama. Il n'y a pas vraiment un terroir parisien, mais vous rappelez, et vous, votre travail, c'est vraiment sur cette technique d'assemblage. finalement, on n'est pas loin de la Champagne. La Champagne, ça n'est que ça. Il y a un vrai terroir champenois avec trois cépages qui vont être construits par les différents maîtres de chai. Vous êtes entouré de qui pour justement construire ce vin parisien? Les cépages viennent de 8 régions françaises. Une fois qu'ils arrivent à Paris, comment ça se passe? Et qui sont ces personnages? C'est des rigolos ou est-ce que c'est quand même des pointures?
Il y a de tout, hein, forcément.
Des rigolos aussi.
Une belle équipe, il faut des rigolos, il faut des pointures.
Il faut aussi pas trop se prendre au sérieux.
Absolument. Je pense que les gens à qui on a envie de rendre hommage régulièrement et qui ont permis de rendre ce projet possible sont les vignerons. Les vignerons qui nous ont fait confiance quand on est allé en région pour les rencontrer. Les gens qui acceptent de rendre leur vie quotidienne de temps en temps un petit peu plus difficile pour aider des gens qui lancent un projet innovant. Donc là, on a des retours extrêmement positifs à faire. Et on a été vraiment soutenus par la filière. Ça, c'est la première des choses, donc les vignerons. La deuxième chose, c'est l'intégralité des gens de la filière qui bossent dans le matériel, qui nous ont aidés, qui sont pas habitués à venir à Paris, qui sont des fournisseurs de tout, de bouteilles, d'étiquettes, voilà, toute la filière en général.
Elle est où, cette winery qui ouvre dans les prochains jours, officiellement, le 27 septembre?
Oui, absolument. La première winery était à Montreuil, rue de Montreuil, pardon, dans le 11e arrondissement. C'est confusant, mais on a déménagé pour les vinifications de 2016 à Montreuil, boulevard de la Boissière.
Ouais. Eh ben voilà, on fait une petite pause sur BFM
Business. On continue, on n'a pas fini là.
On fait une petite pause.
On a le matos, on a le vin, mais on n'a toujours pas les assembleurs.
Justement, il faut laisser reposer un petit peu. Donc on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Goodlux.
BFM Business, Goodlux Paris, l'édition du week-end. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Des Goodlux en pleine vendange parisienne. Enfin, c'est pas tout à fait les vendanges parisiennes, mais quand même, parce que figurez-vous que désormais, le vin est transformé et entreposé en chai à Paris. Vous pouvez déjà déguster le Turbigo 2015 et le Lutèce 2015, ou encore le Grison blanc et rouge, ou le rosé de la winery parisienne. C'est ce dont nous discutons aujourd'hui. On consomme bien entendu avec modération avec Adrien Pellissier, cofondateur de la winery parisienne, Olivier Madinier, cofondateur de Vernis Paris, et Mathieu Bossert, cofondateur des vignerons parisiens. On s'était donc arrêté avec vous, Adrien, sur le fait que les vignerons, ceux qui travaillaient également sur tous les accessoires, toute la technologie autour de la transformation, vous suivez de près dans cette aventure. Autre partenaire?
Mais je vais certainement pas oublier notre équipe de la winery parisienne, puisque je suis au quotidien accompagné par Julien Binguet, mon associé, et Julien Brustis, qui est vraiment la pièce maîtresse de notre dispositif techniquement, qui est la personne qui est présent au quotidien en région auprès des viticulteurs, qui a eu à 26 ans déjà une belle carrière derrière lui à Saint-Émilion, Napa et en Corse également.
Voilà. Je voudrais préciser que chez les vignerons parisiens, c'est pareil. Vous aviez l'air de dire, Emmanuel, que ces petits jeunes là s'improvisent un petit peu. Ils s'improvisent pas du tout. Mathieu Bossert, fils de négociant, vous avez déjà créé une société de distribution de vin, et chez vous aussi il y a un vigneron, un œnologue, un entrepreneur, tous les savoir-faire pour créer les vignerons parisiens.
On est quatre associés, donc avec Frédéric Duseigneur, qui est un ancien vigneron, qui a été un des premiers à convertir son domaine en biodynamie en 2000, à l'époque où même le bio n'en parlait pas. Emmanuel Gagnepin, qui est notre œnologue, qui s'est associé à notre projet, qui lui consulte des domaines en Corse, en Vallée du Rhône. Et Michel Grepert, qui s'occupe de toute la partie gestion financière, etc.
D'accord, mais ça, je doute pas des pédigrés de tout un chacun. Mais pour revenir, et on reviendra tout de suite aux vignerons parisiens et à la winery, une fois que les raisins, oui, sont montés de province, une fois que vous êtes très bien équipé à Paris avec toute la filière qui vous a accompagné, une fois que vous êtes, collatéralisé avec vos équipiers, qui va construire ce vin? Comment ça se passe une fois qu'il y a toutes ces vignes? Ça se passe à Paris à ce moment-là? Comment on déguste? Comment on fait cohabiter des cépages de 8 régions différentes, c'est-à-dire 8 terroirs, 8 climats différents? Comment ça s'est passé pour lancer, j'ai bien entendu, c'était lequel?
Le
WP
rosé
et le Grison blanc.
Je dirais la complémentarité des cépages et des raisins, c'est pas quelque chose qui se constate, c'est plutôt quelque chose qui se construit en amont. Donc c'est des suivis, des parcelles, en allant déguster régulièrement chez les vignerons partenaires pour savoir ce que ces parcelles sont capables de donner. Et puis après, en évaluant ces lots et en les confrontant, les assemblant déjà avec les autres lots et les autres parcelles qu'on envisage de travailler au fur et à mesure, on va construire un profil aromatique qu'on va pouvoir affiner. Et ça, c'est une des composantes importantes des vins de marque, des grands vins de marque, comme les exemples australiens de Penfolds, par exemple, qui sont des exemples très réussis. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des lots chez des vignerons qu'on a suivis après avoir vinifié avec eux, et on va, au fur et à mesure, définir le profil aromatique du vin, et parfois, d'une année sur l'autre, le faire un petit peu varier, parce qu'on a une parcelle qui est particulièrement réussie ou un cépage qui est particulièrement intéressant.
Alors si on prend le grisant blanc, il y a déjà des notes de dégustation. Oui. Il y a quel caractère, quelle typicité, quel esprit?
Parce que vous souriez, Olivier Madigné, mais après on vous posera la question, on verra dans votre cas. Alors pardon, les notes de dégustation.
Les notes de dégustation, alors pour les trois vins, on a voulu de la gourmandise, et sur le grison blanc, on est clairement sur les agrumes, les fruits exotiques, les litchis et également un petit peu d'acacia, voilà, qui vient d'un élevage assez subtil en barrique.
On sent que c'est effectivement peut-être pour des nouveaux consommateurs ou des consommateurs différents, pour désacraliser aussi parfois le vin. C'est ce qu'on a vu aussi avec toute l'évolution des nouvelles propositions des caves parisiennes. Olivier Madigné, vous êtes prêt? Tout à l'heure, on parlait du terroir parisien, ouais, avec vous, avec Vernis Paris, caviste en chambre, mais pas seulement. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie aussi de faire découvrir des vins comme ceux-là qui sortent des codes finalement, où est-ce que vous restez, et est-ce que les clients d'ailleurs sont demandeurs de rester un petit peu dans les codes, il faut que ce soit un château, il faut que ce soit tel endroit, qui parfois ont pu un petit peu freiner l'expansion et les propositions françaises?
Alors il y a les deux choses évidemment. Maintenant, l'idée effectivement, c'est de désacraliser effectivement le monde du vin, c'est de le rendre accessible, vous avez raison, et c'est aussi de trouver des vins qui sont à la portée de tout le monde. Donc ça va être dans la région du Languedoc, pour parler de la France, où il y a des cépages de manière inopinée, en tout cas qui seraient plus classiques dans la région de la Loire ou en Bourgogne ou en Champagne même, donc plus au nord, qui font de très belles cuvées. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même respecter le terroir pour moi. Si jamais il y a des cépages qui vont être installés à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison, on le sait, parce que c'est pas non plus, ça date pas d'il y a 100 ans, ça date d'il y a plus de 1000 ans, voire 1500 ans. Donc il y a une expérience, et je pense qu'il y a vraiment un empirisme qui a été vérifié, et du coup...
Vous n'y croyez pas trop, mais vous irez déguster alors à la winery parisienne, et puis vous reviendrez votre avis, parce que c'est vrai que c'est intéressant.
Alors, juste rapidement, après, vraiment, on arrive au vigneron parisien. Caviste en chambre, tout est dit dans le titre, sans être dit, ça se passe comment? C'est-à-dire que vous débarquez chez nous, avec les bouteilles, comment ça se passe, caviste en chambre? C'est quoi le service finalement?
Alors, nous avons
bien compris que c'était offrir une espèce d'œcuménisme du vin, avec des vins de tradition, pourquoi pas, et puis tous les vins de traverse, les vins. Aujourd'hui, un pieu de la nouvelle vigne, biodynamique, j'imagine, les vins déclassés, oui, les vins qui ne sont pas des AOP, mais qui sont des vins de pays, qui coûtent la peau du... j'imagine. Mais comment ça se passe une fois qu'on veut avoir ces vins chez nous? Vous débarquez à la maison, le soir?
Il y a aussi, franchement, une spécialité dans les vieux millésimes, les vins vraiment rares et exclusifs, qui sont français et également européens et du Nouveau Monde. Et l'idée, c'est d'avoir des salons de réception pour pouvoir recevoir nos clients, puisque auparavant, j'ai eu l'expérience d'une cave traditionnelle. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement sur mesure de nos clients et de pouvoir répondre à tous leurs besoins.
Donc c'est le client qui vient dans vos salons, c'est pas vous qui débarquez chez nous?
On débarque pas dans votre chambre.
Non, c'est qu'il y a écrit vin en chambre.
Un caviste en chambre.
C'était vin chambré.
Non, si vous voulez, comme un galeriste en chambre ou un joaillier en chambre.
D'accord.
L'idée, c'est d'avoir des salons de réception où on a un écrin sur mesure pour avoir une présentation des vins les plus ultimes et les plus savoureux à vous faire déguster.
Et ça se passe comment, le protocole? Donc j'imagine que c'est une manière de club, il faut s'inscrire?
Alors il y a un système d'ouverture totalement sur recommandation et tout à fait libre. Et après, effectivement, on a un système de membres où effectivement on a des services exclusifs pour nos membres, avec des dégustations très élitistes, avec des services sur mesure. On a des services de stockage, de...
Parce qu'après, vous nous aidez aussi à composer notre cave et à la conserver. En attendant, on peut aussi aller déguster au vigneron parisien, pour déguster sur place. Je parlais tout à l'heure, Mathieu Bossert, de Turbigo 2015 et Lutèce 2015, mais il y a les nouveaux là qui sortent.
Il y a les nouveaux qu'on a mis en bouteille il y a 10 jours.
Alors
ça, ce sont nos têtes de cuvée qui ont été élevées dans des barriques de 600 litres, des demi-muis, ce qu'on appelle les demi-muis bourguignons, qui eux seront disponibles d'ici quelques semaines, le temps qu'ils se remettent un petit peu de la mise en bouteille. Et là, en fait, à la différence de ce dont on parlait tout à l'heure, nous, on travaille exclusivement monocépage. Donc, justement, on ne fait aucun assemblage.
Il n'y a pas d'assemblage.
Non, on parlait.
Vous l'avez dit, c'est un cépage rhodanien.
Voilà.
Tu t'es peut-être.
Alors, on a du cinsault, syrah, grenache, grenache blanc.
Les grands cépages de la
Légion. Et l'idée, vous parlez de terroir au début, quand vous buvez une bouteille de vigneron parisien, vous buvez le terroir de la parcelle d'Oualdien. Parce qu'à part du raisin, il n'y a rien d'autre dans la bouteille. Donc, effectivement, le terroir n'est pas parisien puisque les vignes ne sont pas Paris. Le savoir-faire est parisien, mais vous buvez le terroir de Visan, par exemple, si c'est.
Pardon, je vous repose la question. Alors, quel est l'intérêt de faire ça sur Paris ? De faire votre chai sur Paris ? C'est pour être au plus proche des Parisiens ? Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est pour éviter d'aller avoir. C'est sympa aussi un petit week-end non touristique.
Oui,
mais vous n'y croyez pas ?
Si, au contraire. Mais quand vous parlez à un certain nombre de personnes du vin, il y a beaucoup de gens à Paris qui s'intéressent au vin. C'est pour ça que les cours d'œnologie cartonnent pas mal.
Mais de
toutes ces personnes-là, il y en a assez peu qui ont le déclic pour se dire je vais prendre 3 jours, je vais aller voir une cave.
Ouais.
Donc au moins. En venant chez Vigneron Parisien, vous voyez toute la partie technique
donc,
du vin.
Les cavistes viennent à nous, les vignerons viennent à nous, les chais viennent à nous, les templiers de
Mutin. C'est un vin de jumelage finalement, c'est un vin qui réconcilie la vallée du Rhône et Paris.
Je ne sais pas si on était fâchés, mais...
on va retirer le mot réconcilier.
Oui, en tout cas...
Vous allez les fâcher. Je pense qu'il y a certains Rhodaniens qui ne vont pas du tout apprécier que leur cépage soit vinifié à Paris. Mais ça, c'est
ce qu'on pensait, les ronchons. C'est ce qu'on pensait au départ. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ils trouvent que l'idée est absolument géniale. Ça leur met une vitrine aussi sur la vallée du Rhône parce qu'il n'y a pas beaucoup de vignerons ou de caves devant lesquelles passent 50 000 personnes tous les jours. Donc ça, c'est aussi une vitrine assez intéressante pour ces vins-là. Et encore une fois, on respecte à fond, j'allais dire,
la
qualité du raisin.
Alors c'est des vins métis.
C'est, ouais,
si vous voulez.
Justement, la même question qu'on posait à Adrien tout à l'heure, à quoi ils ressemblent vos vins ? Donc les derniers, les Templiers 2015, Haussmann 2015 et 508 2015.
Ouais.
À quoi ils ressemblent ? Est-ce que ce sont des vins aussi comme ça, assez faciles à comprendre, faciles à boire ?
On a deux gammes, en fait, la gamme est divisée en deux parties. Donc Turbigo Lutèce sont nos entrées de gamme, où il n'y a pas d'élevage, enfin c'est que de la cuve inox. Et ensuite, les trois derniers que vous avez cités, ceux-là, c'est nos têtes de cuvée qui sont vinifiées pour les blancs et élevées pour les rouges dans des barriques. On va laisser pas jour d'année, mais on vinifie la bourguignonne. Plus complexe, donc il y a besoin d'un peu plus de temps pour s'assimiler, qui vont eux évoluer dans le temps, contrairement aux deux premiers. Et le dénominateur commun de toutes ces cuvées, c'est la fraîcheur. C'est un peu ce qu'on reproche parfois justement aux vins de la vallée du Rhône, notamment les blancs qui sont un peu parfois un peu au côté lourdeau sur l'alcool. Nous, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Par contre, on adore les arômes de ces cépages-là. Donc, il faut qu'on garde ces arômes-là, mais en donnant de la fraîcheur. Donc, comment on travaille en sélection parcellaire
et en biodynamie.
Vous êtes porté
sur
partie, bio et biodynamie. On a 80% de nos parcelles qui sont en altitude. Entre 300 et 400 mètres, donc ça, voilà, on a toujours de la fraîcheur là. On vendange mûr, mais pas trop mûr, comme ça était le cas pendant des dizaines d'années dans cette région-là. Donc il y a tout un tas de process à la vigne et à la cave pour garder de la fraîcheur dans les vins.
Alors on le sait, Paris, ça reste comme une formidable caisse de résonance pour le vin français, et notamment par son maillage de bars à vin, de bistrots à vin, de sommeliers, de restaurants. Je pense qu'une partie du succès de ce qu'on a appelé les vins nature, de la nouvelle vigne, de la vin biodynamie, elle doit beaucoup, bien sûr, au savoir-faire des régions, mais c'est parce que souvent, peu importe qu'on ronchonne ou pas, c'est Paris qui a porté cette vigne nature, par sa critique, par ses restaurants. Justement, aussi bien Adrien à la winery que Mathieu du côté de Vignon parisien, est-ce que vos vins sont disponibles par-delà la rue de Turbigo du côté de Montreuil, aujourd'hui dans tout le réseau parisien de tous ces bars à vin, qu'ils soient dans l'Est parisien, qu'ils soient dans les beaux quartiers, dans les grands restaurants? Est-ce que vous arrivez à persuader des cavistes ou des chefs ou des sommeliers de servir du vin demi-médine paname?
On a d'autant plus de facilité à les convaincre que le vin est bon. À partir du moment où le vin est bon, la valeur ajoutée parisienne prend tout son sens. Si le vin n'est pas bon, fait à Paris ou pas fait à Paris, ça ne sera pas sur la carte.
C'est une bonne réponse.
Voilà. Adrien. Non, mais bonne réponse.
Oui, nous, dès le début, on a souhaité se connecter avec différentes communautés parisiennes, la communauté du vin. Et ça, on le fait on a le privilège de travailler avec le Repère de Bacchus, qui est un des réseaux de cavistes vraiment référents à Paris et qui nous permet d'être disponible dans l'ensemble des rues qui comptent à Paris.
Et dans le bon sens du terme, très populaire.
Qui est populaire, qui a une très belle sélection.
Pas forcément élitiste.
Qualitatif.
Et qualitatif. C'est un spécialiste qui le dit, Olivier.
Voilà. Et en même temps, on a voulu aussi tenir les rênes de l'animation culturelle en travaillant avec des lieux créatifs et des gens qui font beaucoup pour la culture, que ce soit sur la scène musicale ou sur la scène gastronomique avec les nouveaux lieux d'expérience et les lieux atypiques. On a eu envie dès le début de travailler avec ces gens créatifs qui se sont mis à faire des belles fêtes et des beaux moments de gastronomie sur les toits de Paris. Je peux prendre un exemple simple, l'exemple du groupe du Perchoir qui anime les toits de Paris depuis 3-4 ans. On considérait qu'on avait une démarche un peu atypique qui méritait des lieux atypiques pour rendre le vin disponible.
Vous êtes un vin de rooftop.
Un vin de rooftop,
c'est ça. Et
ce qui est intéressant, je voudrais juste signaler au passage que ce week-end, justement, dans toute cette idée de désacraliser un petit peu le vin, vous connaissez le guide Le Petit Ballon, toute cette équipe du Petit Ballon aussi, qui font découvrir les vins autrement, notamment un plat, une occasion, un vin. Eh bien, ils font leur foire au vin au Grand Train, donc ce week-end, pendant tout le week-end, c'est 24 rue Ordeneur dans le 18e arrondissement. Et voilà, j'imagine que vous y retrouvez, messieurs, un petit peu tous dans cette proposition. Dans tous les cas, messieurs, dames, vous les contactez, vous allez voir, vous allez déguster de vous-même, ce sera beaucoup plus simple, parce que nous, on fait tout ça, mais avec modération.
Vous irez, vous
irez à la winery à Montreuil à partir de mardi, Adrien Pélissier. Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté la winery parisienne. Vous irez donc 55 rue de Turbigot rencontrer Mathieu Bossert et ses comparses chez les vignerons parisiens. Ils sont en train de réceptionner le raisin. En plus, c'est l'effervescence, c'est le cas de le dire. Et puis, vous pouvez contacter Vernis Paris. Merci beaucoup à vous, Olivier Madinier, pour le caviste en chambre. Ça restera à lire tout de suite. C'est le livre de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et où il est toujours question de vin, puisque c'est notre thématique de la semaine, avant d'ouvrir d'autres beaux flacons dans un instant. Emmanuel, il y a pléthore, bien sûr, il y a tous les guides sur le vin.
Une foultitude d'ouvrages dédiés au vin.
Je parlais du Petit Ballon tout à l'heure, le De Sauve, bien sûr, parmi les références. Et donc, vous avez repéré aussi un beau livre et une BD.
J'ai retenu deux, parce qu'effectivement, il y a des guides, des BD, des nanars aussi. Alors, le beau livre, il est aux éditions de La Martinière, ça s'appelle Le Vin des Peintres. C'est signé Jean Serrois. C'est pas la première fois qu'on écrit des ouvrages ou comme cela. On essaie de construire les relations entre le monde du vin et le monde des artistes. Et c'est vrai que les artistes de tout temps, depuis le Caravage jusqu'au surréaliste, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'allais dire, s'inspirent du vin. C'est pas forcément une thématique, mais il y a toujours un flacon, un verre, qui va venir imprégner un petit peu comme ça l'étoile. Ce qui est très réussi dans cet ouvrage, c'est que justement, il s'est pas contenté de compiler tout un tas de toiles qui décrypteraient pour dire, vous voyez, du côté de la gauche, en ligne de fuite, là, il a placé du vin. Pas du tout. Il explique et il raconte que les deux mondes sont en parallèle et s'interpénètrent. Le monde du vin, tout comme le monde des artistes. Et dans les deux cas, le vin va passer du sacré au païen. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est du côté du Caravage, de la Renaissance, c'est d'abord un vin très biblique, très sacré. Et puis plus on va aller dans l'histoire de l'art, plus on va aller dans un vin beaucoup plus païen. C'est assez pointu. Ça reste un beau livre, c'est assez plaisant parce qu'en vérité, on est à la fois dans l'histoire de l'art et dans une histoire de l'hédonisme. Bouquin très réussi.
Le vin des peintres aux éditions La Martinière. Et puis une BD.
Alors une BD, et là je suis quand même, vous n'allez pas en revenir. Depuis quelques saisons, vous savez qu'il y a des BD, des romans graphiques, notamment dédiés à la gastronomie et au vin. Mais là je vous parle d'un manga. Une nouvelle série qui s'appelle Signer le vin vient de sortir aux éditions Pika, le tome 2 de ce qui s'appelle Signer le vin. En gros, Signer le vin, c'est un groupuscule qui s'appelle Le Vin, c'est presque un polar, qui ont décidé de voler les grands crus à des gens qui ne le méritent pas. Alors dans le tome 2 de cette saga, on les voit, alors c'est plutôt réussi en termes de graphisme, et c'est vrai qu'ils vont, il y a tout un tas de voyous, de richissimes, de milliardaires un peu véreux, qui se sont octroyés des grands vins, et eux, ils trouvent que ces gens-là sont indignes, donc ce sont des Arsène Lupin contemporains, ils leur piquent leur vin, ils le dégustent. Pour la petite histoire, c'est signé d'un certain Agi Tadachi. Et Agi Tadachi, j'en parle, parce qu'il l'a signé il y a quelques saisons, un scénario qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Là encore, c'était un manga.
C'est une véritable référence.
C'est la référence. Tous les passionnés de vin, et pas forcément de manga, sont rentrés dans cette saga. Alors, je vous raconte pas la saga parce que Les Gouttes de Dieu signées de ce scénariste, Agi Tadashi, c'est 44 volumes. 44 volumes. C'est des millions d'exemplaires à travers le monde, des traductions partout, un
Donc
manga
là,
aussi filmé. Et c'est le nouvel opus. J'ai jamais lu de BD, je déteste ça. Je suis pas très fan de manga. Mais là, c'est très très pointu.
Et
dans l'édition française, ils sont associés avec le Guide Hachette des Vins. C'est vrai qu'il y a aussi tout un corpus, quasiment de notes de bas de page, où tous les vins évoqués dans le manga sont un peu décryptés.
Vraiment. Eh bien super, signez le vin, tome 2 aux éditions...
Allez, Rue Keller, vous avez tous les boutiques et toutes les librairies de manga parisiennes, c'est en exclusivité, vous pouvez même le lire en japonais.
Et tout ça nous amène, tous ces beaux flacons à d'autres beaux flacons, on parle parfum tout de suite.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Et nous sommes ravis d'accueillir Lionel Payès. Bonjour Lionel.
Bonjour Karine.
On vous avait pas encore vu en cette rentrée, notre
non,
diffuseur
vrai.
De bien-être.
Je sentais.
Donc, vous sentez, je sentais, ne vous déplaise, vous avez eu le temps de sentir donc les nouveautés, parce qu'il y a aussi la rentrée des parfums. Et alors là, vous arrivez avec votre petit best-of habituel. Qu'est-ce que ça donne? Des grands noms sont
oui.
arrivés.
Et la rentrée est aussi chargée que la rentrée littéraire. Il y a beaucoup, il y a beaucoup plus de lancements que les deux dernières saisons. Donc je vous ai amené d'abord le dernier Guerlain, je dis le dernier Guerlain. Guerlain, ils ont leur grande sortie comme la Petite Rome Nord. Ils ont des collections privées, en l'occurrence l'art et la matière. Et ils sortent un Néroli Outre-Noir. Donc Néroli Outre-Noir, d'abord un nom en forme d'oxymore. C'est pas fait pour me déplaire. Ensuite, on a un hommage à Pierre Soulages, le peintre qui travaillait toutes les
Maître
nuances de noir. Son fameux noir-lumière. Donc c'est vraiment ça l'inspiration de départ. Donc au début, vous avez un néroli. Le néroli, c'est la fleur d'oranger, très lumineuse. Et elle s'assombrit tout de suite avec des notes de bois noir, des notes de thé fumé. Donc c'est un faux néroli sage, et comme on peut l'attendre, qui se transforme en une fleur
Lionel, très sombre. Lionel, vous devriez être sommelier.
C'est vraiment une vraie merveille.
Une donc, vraie belle
néroli
réussite.
Outre-noir.
Néroli
déjà, j'adore
le nom. Outre-noir
c'est vrai.
De Guerlain. Vous restez dans le noir, Black is Black.
Black Paper. Alors là, on est dans une maison franco-japonaise qui est comme des garçons. Ils ont vraiment inventé cette parfumerie un peu audacieuse, un peu punk, j'allais dire. Là, ils sortent un parfum qui est... Alors, vous avez des notes de fève tonka, de notes de cuir, de cèdre.
Donc, très foncé.
Et puis, tout ça explose. Et là, vous avez une note extrêmement forte de poivre noir. Alors qui pique presque le nez, hein. On est vraiment dans du poivre, on est vraiment dans l'intention du poivre de la gastronomie qui horrifie
sur le
un peu
goût vraiment de la saveur, j'avais presque
dit. C'est incroyable, vraiment on a l'impression, on a cet effet poivre sur la peau. C'est brut, direct, violent comme
j'aime
on aime.
J'aime beaucoup ce flacon.
Mixte.
Ouais. Donc on est perdu sur l'épaule de sa compagne.
C'est ça, le flacon assez original là, avec le bouchon décalé.
Oui, toujours en forme de galet. C'est un peu leur flacon traditionnel qui réédite de parfum en parfum.
Et voilà, une ouverture un petit peu décalée. Ça, c'est... Et puis, alors, il y a les grands noms. Évidemment, la collection Vuitton.
Toujours dans le noir, matière noire. Ouais. Alors, la Vuitton a sorti d'un coup, parce qu'on les avait tellement attendus, qu'ils nous ont sorti 7 parfums d'un coup. Moi, j'en ai pris un.
C'est le premier, hein. Parfum signé Vuitton, on rappelle.
Ils sont tous réussis, mais j'allais dire que le petit bémol, c'est que ce sont des parfums assez sages. Je vous ai pris le moins sage de la bande, qui s'appelle Matière Noire. Alors, Matière Noire, c'est un boisé très animal. Donc, le bois en question, c'est le oud dont on a beaucoup parlé, qui est un bois du Laos, très animalisé, et qui se contraste de notes de fleurs blanches, de cassis. Mais on est vraiment dans le parfum probablement le plus signé des sept. C'est vraiment très réussi. Là aussi, on est dans une parfumerie. Pour moi, c'est le plus masculin de toute la collection. Mais il est portable par une femme.
Et donc, Jacques Cavalier Beltru, il a bien bossé.
Ah oui, il a bien bossé avec un flacon signé Mark Newson.
Très
sobre, épuré, très simple.
Distribution très assez sélective. Hein.
Oui. Partout, il y a 120 points de vente dans le monde.
Bon. Et Stark alors, parce que lui aussi, Stark se lance dans les parfums. Philippe Stark.
Vous n'avez pas entendu.
Le parfum Philippe Stark. Il dessine pas de flacons.
On a attendu 15 à la parfumerie dans combien de mois là?
Non, mais alors moi, j'ai eu la réflexion inverse. Je me suis dit,
il vient seulement maintenant.
Ouais. c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le jeune homme?
Et j'ai failli être déçu. Donc il sort trois parfums d'un coup avec... Alors il y a le discours de Stark sur... on est dans l'allégorie, dans le sidéral. Donc il nous dit que ça sent la météorite...
Après lui, c'est la grand-mère.
C'est un peu perché.
Ouais. Non, mais il était de talent, mais c'est vrai que dès qu'il y a un discours, parfois, il ne nous a pas parlé de parfum citoyen non plus.
Non, pas encore.
Il nous l'avait fait déjà pour les
barres. Sur les objets. Il y a trois parfums. Là aussi, deux parfums qui sont réussis, mais pas révolutionnaires. Et puis alors, vraiment un bijou qui s'appelle Pau d'ailleurs. Pau d'ailleurs, c'est celui dont il dit que ça sent le vide sidéral. On pourrait avoir peur en se disant, c'est quoi,
c'est un
parfum de rien. Non, en fait, c'est un parfum extrêmement simple, une signature vraiment plus épurée que ça. Je pense qu'il y a quelques matières premières. Donc, on a des notes boisées, des notes terreuses et du musc, et énormément de musc. Et ça fait, moi, je le porte depuis 15 jours.
Il s'est entouré pour construire ce parfum.
Alors, il a pris trois parfumeurs, et qui sont plutôt parmi les très bons parfumeurs. Donc, celui-ci est signé Annick Ménardeau. Annick Ménardeau, elle avait fait le Lolita Lempicka, par exemple, et le plus grand parfum de Dior qui s'appelle Bois d'Argent.
Ah oui.
Qui est une vraie merveille.
Ah oui, non, d'accord, c'est vraiment. Il s'est bien entouré, je dirais.
Ouais. Deux stars, on retient Pau d'ailleurs.
Pau d'ailleurs, exactement.
Merci à tous. Good Luxe, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Il y a le best-of pour ceux qui restent avec nous. Sinon, on se retrouve le week-end prochain, même heure, même endroit sur BFM Business.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.